Général des Finances, Necker, auteur d'une centaine de rapports sur l'assainissement des villes, la création d'abattoirs, la modernisation de l'agriculture, administrateur de la Caisse d'Escompte, co-organisateur du voyage de la Pérouse, etc., etc. Parallèlement, sa contribution à la science avait été aussi diverse que décisive. Il avait fait progresser d'innombrables chantiers de la connaissance, sans oublier son grand œuvre, la création de la chimie moderne. Son intérêt pour l'eau commence dès 1768. À peine reçu à l'Académie des sciences, celle-ci lui demande d'apprécier un projet d'aqueduc conçu par un certain ingénieur, Antoine de Parcieux, pour apporter aux Parisiens l'eau propre de la petite rivière Yvette. Paris n'est alors alimenté que par la Seine, qui tient lieu d'égout. L'aqueduc coûterait 8 millions. Le projet sera abandonné. Les hautes autorités ont préféré reconstruire l'opéra qui vient de brûler. Mais Lavoisier a profité de cette étude pour multiplier les observations et proposer de nouvelles méthodes d'analyse. Sa conclusion est politique. On peut, dit-il, se préoccuper, comme c'est la mode, des eaux médicinales. Mais rien n'est plus important que la qualité des eaux potables. En ce beau milieu du siècle des Lumières, l'eau ne va pas tarder à livrer son secret. Trop de savants la pressent d'interrogations de plus en plus aiguës. C'est sûr, un jour prochain, elle va parler. Qui, le premier, recueillera son aveu? Henry Cavendish est un industriel anglais fortuné. Pour son amusement, il analyse les airs. En d'autres termes, les gaz. Un jour de 1766, alors qu'il vient de verser du vitriol, acide sulfurique, sur du fer, il voit se dégager un gaz qu'on peut enflammer. C'est l'hydrogène. 8 ans plus tard, en 1774, le Suédois Carl Wilhelm Scheele et l'Anglais Joseph Priestley découvrent à quelques mois d'écart l'oxygène. En 1781, un autre Anglais, John Walter, observe qu'un mélange d'air vital et d'hydrogène enflammé par une étincelle produit de l'humidité. Lavoisier décide, avec son ami Laplace, de réaliser l'expérience. Leur conclusion, déposée le 25 juin 1783 à l'Académie des sciences, est une révolution. Si on brûle ensemble, sous une cloche de verre, un peu moins de 2 parties d'air inflammable contre 1 d'air vital, la totalité des 2 airs est absorbée et l'on trouve une quantité d'eau égale en poids à celui des 2 airs qu'on a employés. Contrairement à l'apparence et à une croyance plusieurs fois millénaire, l'eau n'est pas une substance simple, mais le résultat d'une composition, l'alliance de l'hydrogène et de l'oxygène. La vraie nature de l'eau. 2. Un couple destructeur. Le couple oxygène-hydrogène n'est pas si unique qu'il y paraît. Pour être plus précis et tout à fait indiscret, l'oxygène est attiré plus que de raison par ces petites bêtes volages et négatives qu'on appelle électrons. Cette attirance déstabilise l'hydrogène, dont la tendance serait plutôt d'aller vers le positif. Or, chacun sait qu'un couple qui bat de l'aile représente un danger pour les autres couples. Quand on ne se satisfait pas tout à fait l'un l'autre, on ne résiste pas toujours à la tentation d'aller voir ailleurs. Et c'est ainsi que l'eau, en tombant sur le sel, par exemple, provoque le divorce entre les 2 éléments qui le constituent. Le sodium et le chlore tentent de lutter. Mais comment résister lorsque la force de séparation de l'eau est 80 fois plus puissante que l'attirance qui les réunissait? Peu à peu, irrésistiblement, le sodium et le chlore s'éloignent l'un de l'autre. Et il faut alors assister aux manœuvres de cette chère amie l'eau, soi-disant si douce, l'innocence même, pour s'assurer que les morceaux de sodium et de chlore n'entrent plus en contact les uns avec les autres. Les petites molécules d'eau les entourent, les assiègent un à un, les isolent à jamais. Le bloc, en 2 temps 3 mouvements, s'est changé en archipel. Et c'est ainsi, par morcellement...